Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, mesdames et messieurs, eh bien, de quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons aborder un sujet qui va certainement vous intéresser. Il s'agit de l'exode rural en République démocratique du Congo. Quelles sont les causes et solutions? Professeur Barthélémy Kalambay Banza, démographe, est notre invité. Professeur, bonjour.
Bonjour Jody.
Bienvenue dans cette émission. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Et tout à l'heure, nous aurons aussi en ligne le professeur Dadi Salé, qui est expert en développement. Vous voulez participer à cette émission, appelez-nous au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Tati Mapoukou assure la réalisation de cette émission. Marcel Ngomombalakeba à la coordination. Au micro, Jody Daniel Kachama. Willem Lungamba à la mise en onde.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, de plus en plus de jeunes Congolais désertent le milieu rural ou vont d'une ville à une autre en quête d'une vie meilleure. C'est le cas par exemple des jeunes Kasaïens qui fuient leur province et se dirigent soit vers le Katanga, soit vers la capitale, à Kinshasa. Et d'après nos sources, ils sont à l'origine de l'explosion du nombre des taxis moto appelés Wewa à Kinshasa ou Maseba à Lubumbashi. Alors, quelles sont les causes de ces départs massifs des populations kasaïennes vers d'autres régions du pays et quelles sont les solutions pour freiner cet exode des populations? On en parle dans cette deuxième partie de l'émission avec notre invité, le professeur Barthélémy Banza. Il est démographe. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
L'exode rural, d'abord, qu'est-ce que cela veut dire?
Bien, l'exode rural, il s'agit d'un déplacement de masse des milieux ruraux vers le milieu urbain.
Eh bien, et quelles sont généralement les raisons?
Ben, les raisons sont multiples. Les raisons, c'est... la principale raison, elle peut être économique. Économique du fait que dans le milieu rural, à un certain moment, les activités champêtres commencent à avoir des problèmes. Et on peut également avoir de l'exode ou des déplacements massifs à cause des crises ou des conflits entre des conflits ethniques ou des conflits armés. Eh bien, ça, ce sont les principales raisons qui font déplacer les populations. Mais il faut aussi ajouter des calamités naturelles. Ça peut être la sécheresse ou encore d'autres causes naturelles.
Donc, c'est beaucoup plus pour des raisons économiques. On cherche les meilleures conditions de vie.
Oui, on est en train de chercher les meilleures conditions de vie.
Alors, aujourd'hui, on assiste à un grand déplacement massif des jeunes du Kasaï qui, à un moment, à Kinshasa... ils sont venus nombreux à Kinshasa, d'autres sont à Lubumbashi ou se dirigent aussi ailleurs dans d'autres villes du pays. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution par rapport à cette situation?
Bien, je pense qu'il faut relativiser ce débat. Il y a des affirmations qu'il faut corriger. Nous, les scientifiques, nous fions pas à ce qui...
À ce qui se dit comme ça. Il faut des études.
Oui, c'est justement ça l'erreur que même certains politiques commettent. En fait, les déplacements ne concernent pas seulement les Kasaïens qui vont vers le Katanga.
Ou qui viennent vers Kinshasa.
Ou qui viennent à Kinshasa. Mm-hmm. Et les déplacements concernent quasiment toutes les provinces. Les Congolais bougent.
Ils vont en Angola.
Les Congolais bougent et ils quittent leur pays pour l'extérieur. Mais pour revenir à l'exode rural, les Congolais passent d'une province à une autre. Lorsque vous consultez le rapport de l'enquête mixte PALU, qui a été réalisée en 2019, collectant les données jusqu'en 2018, ce rapport montre que la plupart des hommes qui bougent viennent de la province du Nord Kivu. Vous avez 85% de personnes qui ont bougé.
Qui quittent le Nord Kivu pour d'autres provinces.
D'autres provinces.
Ok.
Vous avez, parmi ceux qui ont bougé, lorsqu'on regarde les personnes qui ont bougé, qui avaient été recensées, disons, enquêtées à travers le pays, 85% de ceux qui ont bougé viennent du Nord Kivu. Et ça peut s'expliquer.
Avec la guerre, l'insécurité, etc. Oui.
Et vous avez également le Bazuélé. Ça vous fait 61%. Vous avez le Lualaba, ça vous fait 60%. Vous avez le Tanganyika, ça fait 54%. Vous avez le Kasaï, ça fait 53% parmi les enquêtés qui avaient bougé, qui n'étaient pas à leur lieu de résidence depuis qu'ils sont nés. Eh bien, lorsque vous regardez les provinces qui ne bougent pas, 96% des hommes de Sankuru n'avait pas bougé. 95% de la province de Mongala, les hommes de la province de Mongala n'ont pas bougé. Vous allez à la Chuapa, vous avez 88%, à la Chuapa 85%, et le Haut-Katanga, ça fait 76% qui n'ont pas bougé. Ça veut dire que le Haut-Katanga, ça bouge aussi. Parce que s'ils sont à 76% pour n'avoir pas bougé, 24% ont bougé. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, avec les Kasaïens au Katanga, disons oui, au Katanga, quand on parle de Katanga, c'est principalement le Haut-Katanga.
Le Haut-Katanga.
Oui. À Kinshasa, c'est un peu comme ce que s'est passé avec Stanley. Lorsque Stanley était arrivé pour la première fois au Congo, il avait pris l'embarquement et le long du fleuve, les Congolais d'autrefois qui voyaient pour la première fois ce type d'embarquement étaient curieux de venir voir à ce que ça ressemblait. Et Stanley, juste au regard de ce mouvement-là, avait estimé à 28 millions d'habitants, une population qui habitait le Congo. Et lorsque Stanley reviendra pour la deuxième fois, il n'avait pas vu ce mouvement-là. Et il a conclu qu'il y avait beaucoup de cas de décès, beaucoup de morts entre ces deux passages au Congo. Eh bien, c'est exactement ce qu'on regarde aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui et au Katanga et à Kinshasa, où on voit les jeunes qui font la moto, qui font le taxi-moto.
Oui.
Et tout de suite, sans avoir fait un recensement de ces jeunes gens et savoir d'où ils viennent,
on tire vite des conclusions.
Oui, on conclut que ces jeunes gens tous viennent du Kasaï, alors que effectivement les jeunes gens qui sont venus du Kasaï ont commencé, c'est eux qui ont insufflé cette activité là. Et puis
les autres
ils ont
pris,
été suivis par les autres.
Rejoints par les autres. Oui.
Eh bien, parce que on peut se retrouver dans un arrêt de taxi moto et qu'on entend parler du Tshiluba, alors que pendant qu'on parle du Tshiluba, on parle aussi des Lingala. Oui. C'est en fait les Tshiluba qui deviennent dominants. Et on conclut tout de suite que tout cela, tous ces jeunes gens viennent du Kasaï. Bien. Et pour nous les scientifiques, on ne peut pas conclure comme ça. Il faut une étude auprès de ces jeunes motards et on pourrait dire qu'il y a telle proportion de jeunes qui viennent de telle province, de ceux qui viennent de telle province, parce que à Kinshasa, et à tout le monde, il vient.
D'accord. Alors, selon les données que vous avez présentées tout à l'heure, c'est la province du Nord Kivu qui vient en tête. par rapport au nombre de personnes déplacées, on comprend par rapport à la situation de l'insécurité. Et puis suivi, vous avez dit du Bas-Ouélé.
Vous avez le Bas-Ouélé, 61%, et puis vous avez le Lualaba, 60%.
Et le Lualaba, 60%.
Oui.
Alors tout ça, c'est à part l'insécurité, c'est beaucoup plus pour des raisons économiques.
Oui, pour le Nord-Kivu, c'est principalement les raisons économiques, on va dire,
l'insécurité.
Parce que effectivement, ceux qui quittent le Nord-Kivu pour aller, c'est 70%, viennent du milieu rural. Et donc, ça, c'est l'exode rural qui va être expliqué par l'insécurité, les conflits armés qui se trouvent dans les milieux ruraux, au Nord-Kivu. Par contre, lorsque nous voyons maintenant dans d'autres provinces qui n'ont pas connu de conflit, et là, les raisons sont principalement économiques.
Et là, on peut quitter une ville à une autre.
Oui.
Est-ce qu'on va toujours parler de l'exode à ce moment-là?
Non, lorsqu'on parle d'une ville à une autre, on ne parle pas d'exode. On va parler d'exode urbain lorsque on va partir du milieu rural vers
l'exode rural.
On part d'une ville vers le milieu rural et on va parler de l'exode urbain.
Okay.
Parce qu'on peut quitter aussi le milieu urbain pour aller en milieu rural.
Oui.
Oui. Et ça, ça existe également chez nous. Ça fait à peu près 17% des Congolais qui ont vécu en milieu urbain d'après cette base de données, d'après cette enquête, qui sont partis du milieu urbain pour le milieu rural. Ça fait 17%.
17%. On va accueillir le professeur Dadi Salé, expert en développement, qui intervient depuis la ville de Goma, au nord Kivu. Professeur Dadi, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse à la question de l'exode rural, déplacement massif des populations vers les zones rurales, qui quittent les zones rurales vers les zones ruraux vers les centres urbains. Et puis, d'après les données que le professeur, le démographe nous a données, c'est la province du Nord Kivu qui vient en tête, on comprend, avec l'insécurité, les conflits armés, etc. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur, pour les solutions qu'on peut appliquer par rapport à ces déplacements des populations?
Oui, pour ne pas répéter les professeurs, il faut comprendre effectivement que c'est une situation au niveau mondial. Ce n'est pas une situation purement congolaise. Et que c'est parmi les soucis, effectivement, des États modernes pour essayer de trouver deux grandes directions. Et la plus grande direction, c'est la redistribution des revenus nationaux. Ça va. Donc l'exode rural, au fond, a aussi une relation cause à effet direct à la redistribution des revenus nationaux. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et le deuxième grand point, c'est effectivement les politiques de stabilisation de l'économie nationale. J'explique. Donc, au fond, si nous comprenons qu'il y a augmentation de la population, il y a quelques années, on était à moins de 50 millions, ou bien même 30 millions. Comme on a parlé du Nord Kivu, je me rappelle Goma vers les années 80, ben c'était moins de 300 000 personnes à Goma. Maintenant là, nous sommes à Goma à plus de 1 700 000. Ça dépend des statistiques parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est plus vrai. Donc, l'augmentation de la population, surtout dans des milieux ruraux, fait en sorte qu'il puisse y avoir exode rural. Ça c'est un. À part l'augmentation de la population rurale, il y a aussi les développements. Quand il y a baisse effectivement de la mortalité, donc on a plus de gens, naturellement. Mais si je dois citer, il y a aussi effectivement les déclins de l'emploi au niveau industriel rural. Et exactement, si les emplois baissent, s'il n'y a pas des industries au niveau rural, s'il n'y a pas des usines, ben naturellement les gens vont aller chercher de l'emploi vers les zones urbaines, ce qui est normal, parce que là, avec l'augmentation de la population, il n'y aura plus moyen de contenir un peu, surtout quand les gens ont étudié aussi. Ces améliorations-là font en sorte exactement que l'exode rural soit défait au niveau mondial et la République démocratique du Congo ne fait pas du tout exception. Mais pourquoi ça s'empire en République démocratique du Congo? C'est que la structure politique de la République démocratique du Congo, parfois un peu tribalo-ethnique, et la structure sociale aussi tribalo-ethnique, et que exactement, si vous voyez le finances publiques, c'est-à-dire le budget depuis l'indépendance, ça va, le budget et nos finances publiques n'ont pas facilité les milieux ruraux. C'est la raison pour laquelle je veux directement ce programme des 145 jours, c'est une innovation. On va voir ce que ça va faire, mais en attendant, toutes les politiques des finances, de l'économie, se sont concentrées vers exactement les zones urbaines. C'est-à-dire, par exemple, à Goma, vous allez comprendre que maintenant, il y a des routes qui se construisent, il y a beaucoup de maisons. Le peu d'industries qu'on a, ben, sont à Goma. Sont à Goma, effectivement. Même chose avec Kinshasa. Donc, Kinshasa, vous avez tous les gros travaux sont à Kinshasa. Mais dans les périphéries, il n'y a pas grand-chose. Même chose un peu partout. Donc, les zones rurales sont dépourvues des infrastructures, sont dépourvues de la politique d'investissement dans nos zones rurales. Et pourtant, nous parlons exactement de cette politique de la productivité agricole. Mmh. Donc, la productivité agricole dans nos zones rurales ne fait que, je ne dirais pas vraiment baisser.
Professeur Dadi, est-ce que déjà le fait que qu'il y a des placements massifs de la population, est-ce c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose?
Ça dépend. Parfois, ça peut être une bonne chose et parfois, ça peut être une mauvaise chose. Je m'explique. Si nos zones rurales s'est développées correctement, vous allez voir, il n'y aura pas assez de déplacements dans ces cadres-là. Parfois, ça peut être une bonne chose. Je parle, par exemple, de la quand il y a augmentation de la productivité agricole. OK? Et cela diminue la main-d'œuvre nécessaire là-bas. Donc, quand il y a une grande augmentation de la productivité agricole, il y a des gens qui ne vont pas avoir du boulot. Donc, nécessairement, il faut qu'ils se déplacent vers les zones urbaines pour aller chercher du boulot parce qu'au village, il y a un peu de trop-plein. Ça, c'est un point que les gens négligent et pourtant, c'est un point normal. Donc là, nous allons parler d'un aspect positif. S'il y a une grande productivité agricole, ça va, et que nous sentons qu'il y a une diminution de la main-d'œuvre nécessaire vers les zones rurales, cette main-d'œuvre-là, nécessairement, va effectivement faire l'exode rural vers les zones urbaines, là où ils vont essayer de trouver un peu mieux et même de travailler. Mmh. Et c'est ces liens-là qu'il y aura entre les zones urbaines et les zones rurales, c'est ce qui va faire la richesse même d'une nation. Donc, il y a des exodes qui valent la peine. Mais faisons attention, parce que dès que nous parlons d'exode rural, il y a ces mots-là des déplacements durables. C'est pas des déplacements sporadiques et qui finissent d'un coup. Les gens viennent et partent. Non. Dès qu'on dit exode rural, donc on s'imagine une population qui se déplace d'une façon durable vers maintenant les zones urbaines. Et à vrai dire, ils restent là-bas. C'est ça la façon de déplacement durable. Donc, il faut qu'il y ait connexion. C'est normal.
Bien.
Il y a connexion, donc il y a des points négatifs et positifs.
Et positifs. On va accueillir les auditeurs Kachai de Kanyuka et Mme Evelyne de Kananga. Kachai, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour au magnifique professeur.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Moi, j'interviens aujourd'hui, Monsieur Jody, par rapport à cette thématique très importante de l'exode rural. Parce qu'on en a marre. On en a marre. L'invité a tracé le tableau du déplacement massif des populations congolaises de certaines provinces. Il a donné même les pourcentages de ce déplacement-là. Il est allé plus loin pour dire que même il y a des Congolais qui se déplacent de la RDC vers l'Angola. Mais il n'a pas dit pourquoi les Angolais ne quittent pas chez eux pour venir en RDC. Monsieur Jody, il a dit tout simplement que si. Surtout les gens de Goma quittent leur province pour aller dans d'autres coins, c'est à cause de l'insécurité. Il n'a pas détaillé les causes du déplacement massif de certaines populations d'autres provinces vers les provinces le plus économiquement utiles en République démocratique du Congo. Je prends alors le cas du Kasaï central, M. Jody, où tout Kasaïen cherche à aller vivre ailleurs, parce qu'il pense que c'est ailleurs où il pourra trouver la vie meilleure. Monsieur Jody, vous savez, actuellement, c'est la politique qui tient tout en état en République démocratique du Congo. Si au Katanga, les Katangais ne cherchent pas à quitter chez eux pour venir vivre au Kasaï central, c'est parce que chez eux, les conditions de vie sont en quelque sorte un peu améliorées. C'est la scène que l'espace Katanga, c'est un espace économique, et tellement économique. L'argent circule, les gens peuvent trouver comment vivre. Mais au Kasaï central, M. Jody, il y a un chômage à outrance que l'État assemine à cela. Aucune politique agricole, aucune politique de lutte contre le chômage. Mais les gens se débrouillent d'une manière ou d'une autre. Auparavant, lorsque le Kasaïa s'est déplacé, la raison était que parce qu'il n'y avait pas les universités. Quand les enfants décrochaient leur diplôme d'État, il faudrait qu'ils aient ailleurs, là où ils pouvaient trouver les universités pour étudier. Mais actuellement, les universités pullulent partout. Alors, quand ces gens-là terminent les études, sans trouver un emploi, je dis, ils vont rester dans ces coins pour faire quoi? C'est ainsi que vous voyez ce déplacement-là. Et quand les gens, les Kasaïens, aillent ailleurs, ils sont maltraités, malmenés, réduits au ridicule, on leur demande de retourner chez eux. Rappelez-vous du refoulement, heureuse mémoire, Monsieur Kyungu, le cimetière le plus long de la RDC, c'est le cimetière qui quitte le Katanga jusqu'au Kasaï. Parce qu'on avait demandé aux Kasaïens de retourner chez eux. Je ne vais pas faire beaucoup de détails, monsieur Jody. Je demande au gouvernement congolais, parce que si nous subissons des conséquences en République démocratique du Congo, celui qui est à la base de ces conséquences-là, c'est le gouvernement congolais.
Merci, merci, Kachai.
Il n'y avait pas un gouvernement mis en place.
D'accord.
On disait que non, il faut attendre la mise en place du gouvernement. Alors, que le gouvernement cherche à améliorer d'abord les conditions de vie des populations dans leur milieu.
D'accord.
Pour qu'ils ne convoitent pas d'autres...
Pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Merci beaucoup, Kachai.
Deuxièmement.
Oui.
Qu'il y ait une politique de la création des emplois, monsieur Jody. Qu'il y ait une politique de création des emplois.
Merci, Kachai. On va donner la parole à madame Evelyne de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel, et à notre invité, à tous les auditeurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'exode rural?
C'est l'État qui en est l'auteur. Hein. L'État qui en est l'auteur. Il fallait que les conditions dans les milieux ruraux soient réunies, soient améliorées, pour que les jeunes gens qui quittent, la plupart sont des jeunes, à ce que cette jeunesse constitue la force même de cette entité, de ces entités-là rurales. La jeunesse, c'est la main forte pour la production. Quand elle est en train de se déplacer, et ceux qui restent, ce sont des vieillards, ceux qui sont faibles, ils ne savent pas produire, c'est pas bien. C'est là le mouvement de l'impact sur la production. C'est là de l'impact sur la production. L'État devrait s'en charger pour pouvoir créer de l'emploi au niveau des milieux ruraux, les utiliser dans l'agriculture, dans la réhabilitation des infrastructures routières, dans la pêche. On pouvait bien les utiliser aussi dans le sport, hein, au niveau de Mispiro, construire des stades de façon moderne, pouvoir les maintenir là-bas. Mmh. L'exode rural, c'est pas aussi mauvais. Pourquoi? Parce que il cherche à découvrir. Parce que l'homme doit, il se découvre et il découvre les autres. Il découvre d'autres milieux. Il doit être en contact d'autres cultures pour, n'est-ce pas, son évolution. C'est pas aussi mauvais. Si le Kassai, parce que je sens que c'est le Kassai qui est au centre, mais partout là, on emprunte les voies vers la Zambie, la Tanzanie, l'Angola là-bas, le Congo Brazza, c'est pas seulement le Kassai. Non, non. Le Congolais cherche à être en contact avec d'autres cultures pour son évolution.
Bien, merci.
On doit éclater le changement pour avoir, à partir de l'exode rural. Néanmoins, on décourage cela. Pourquoi? Parce qu'on est en train de perdre la force au plan de production. C'est ça.
Merci, madame Evelyne. Héritier, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'exode rural?
C'est les mauvaises conditions de vie dans le village qui cause l'exode rural. Il n'y a pas une autre chose à part ça. Comment voulez-vous, papa, je dis, comment voulez-vous qu'une personne vit dans un milieu où il n'y a pas d'électricité? Il n'y a pas une route, il n'y a pas des hôpitaux. On ajoute l'insécurité. Comme moi, j'ai quitté mon village natal à cause de l'insécurité. Comment voulez-vous qu'une personne vit dans de telles conditions au moment où il y a les gens qui sont à ville, qui sont en train de penser, de faire de bonnes vies. Comment voulez-vous? Alors, la question que je voudrais poser à l'évité, quelle est la politique? Quelle est la politique que le gouvernement a déjà mis en place pour la création d'emplois pour les jeunes gens qui vivent dans des milieux ruraux? Quelle est cette politique?
Quelle est la politique? Bon, il y a le programme de développement des 145 territoires. Et le Premier ministre avait aussi annoncé qu'il a promis de combattre l'exode rural en incitant les cadres congolais à se construire une maison dans leur village d'origine et à y acquérir un champ. Professeur Barthélémy, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces préoccupations des auditeurs?
Oui, merci. En fait, tout le monde dit la même chose, ce qui est normal. C'est que les mauvaises conditions poussent les gens à quitter là où ils habitent et ce sont les bonnes conditions qui attirent. Et cet exode rural vient du fait que ceux qui sont partis donnent des informations du genre là où ils sont arrivés, il fait beau vivre. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité,
il y a des belles routes,
on peut trouver du travail. C'est un peu comme les Africains qui vont vers l'Occident.
Oui.
Ceux qui sont partis prennent des photos, envoient des images pour dire il fait beau vivre ici.
À la Tour Eiffel, les autres ont envie de partir.
Ils vont vendre tout ce qu'ils ont, même les parcelles des parents pour y aller. Mais quand ils arrivent, ils ne retrouvent pas le ciel, ils trouvent l'enfer, pour la plupart.
C'est la déception.
Oui. Eh bien, c'est exactement ce qui se fait également avec l'exode rural chez nous. S'il n'y a pas que les jeunes qui partent aujourd'hui, pour prendre aussi le cas du Kassai, c'est pas seulement les jeunes.
Même des adultes.
Vous avez également des adultes. Les conditions, la politique qui avait été menée depuis des décennies, depuis l'époque de Mobutu, c'est cette politique-là qui a fait que on n'a pas pu développer certains coins, améliorer les conditions de vie de certains coins.
Et Mbujima au Kassai par exemple, il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a rien.
Oui.
Et le taux de malnutrition est très élevé.
C'est une province enclavée. Et vous savez, les auditeurs disaient tout à l'heure qu'il y a la part du gouvernement. Ce qui est exact, parce que si vous pouvez vous rappeler que ceux qui sont partis, la première catégorie des populations qui sont parties ou qui est partie du Kassai vers les Katanga, ce sont des commerçants, ce sont des opérateurs économiques qui faisaient leurs activités sur Dubaï, sur l'Asie, et leurs marchandises venaient par le Katanga, et les trains étaient immobilisés, il n'y avait pas de train et beaucoup avaient perdu leurs biens et leurs marchandises. Et ces gens-là étaient obligés de quitter le Kassai pour aller s'installer soit à Kinshasa ou encore au Katanga, là où ils pouvaient faire leur business. Et ça, c'était la force économique qui partait. Et ceux qui étaient restés, c'était ceux qui dépendaient de cette force économique, sans parler de la MIBA. Maintenant, il est resté une deuxième catégorie de ceux qui dépendaient, qui faisaient des petits travaux dans les petites entreprises
autour de la MIBA,
de ces opérateurs économiques qui sont partis.
Oui.
Eh bien, lorsqu'ils se sont retrouvés en difficulté pour la survie, ils ne pouvaient que quitter. Ils ont quitté. Et lorsque vous arrivez, par exemple, lorsqu'on parle de Kinshasa, mais lorsque vous arrivez dans le Grand Bandundu, vous allez trouver beaucoup de Kassaïens qui ont monté leur petit business. La même chose, on ne parle pas seulement du Katanga, vous pouvez aller dans le Congo central, vous allez trouver également les originaires du Kassai. En fait, c'est des gens qui sont en train de se débrouiller pour la survie. Contrairement aux autres de provinces, on va dire, de l'Équateur, il n'y a pas aussi de bonnes infrastructures à l'Équateur. Mais seulement, ces populations se contentent de leurs forêts. Et ils survivent de leurs forêts, ils vivent de leurs rivières. Alors que au Kassai, c'est la savane. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est l'agriculture. Mais maintenant, cette agriculture qui est une agriculture extensive, où on cultive avec la houe, et on produit, ce qu'on produit, ne parvient même pas à subvenir aux besoins de sa propre famille. Eh bien, lorsqu'on vous dit qu'à Kinshasa, en faisant une petite activité, en vendant les cartes de téléphone, en vendant du maïs, vous pouvez nourrir les enfants, mais les réflexes, c'est normal que les gens bougent vers
là où ils trouvent le bien-être. Le bien-être.
Alors, mais pour revenir sur les statistiques, il faut noter, Kachaï, que les Haut-Katangais aussi bougent. Vous avez 18% de Haut-Katangais qui ont bougé vers le Lualaba. Et vous avez 6% de Haut-Katangais qui sont allés vers la province de Lomami. Eh bien, il y a toujours des raisons pour lesquelles X, Y préfèrent aller s'établir à tel endroit pour pouvoir, où ils pensent trouver mieux. Mais seulement, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines catégories socioculturelles qui sont plus visibles que les autres.
Alors, professeur, est-ce que l'exode ou le déplacement des populations d'une ville à une autre est une mauvaise chose?
Comme disait le collègue, c'est pas forcément une mauvaise chose. Revenons un peu sur l'histoire de taximen moto.
Oui.
Vous savez qu'à Kinshasa, à une certaine époque, on pouvait prendre un taxi seul et vous prenez le taxi, le taximen vous amène jusque devant votre porte. Ça existait dans cette ville. Et puis finalement, cette affaire est terminée, c'est devenu l'affaire de ce qu'on appelle à Lubumbashi Booking, ou ce qu'on appelle
Taxi Express.
Oui. Alors, pour pouvoir avoir un taxi seul, il faut payer beaucoup d'argent. Alors que quand vous êtes à Brazzaville, on continue à faire ce qui s'est passé à Kinshasa, vous êtes seul dans la voiture.
Et bien, on vous dépose devant
chez vous.
Oui.
Et maintenant, nous sommes arrivés à un moment où on pouvait être à 7 dans un taxi, ici à Kinshasa. Et les transports urbains casse-tête. Maintenant, quand ces amis du Kasaï arrivent, ils constatent que ils peuvent créer un business, une activité.
Ils ont trouvé une opportunité.
Une opportunité, le taxi moto. Et aujourd'hui, jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, vous pouvez prendre ce taxi moto qui vous dépose devant votre résidence. Eh bien, aujourd'hui, ces jeunes gens qui n'avaient pas du travail, qui pouvaient alimenter la population de Kuluna, ont créé un business. Et ce business, non seulement pour eux, mais aussi pour les propriétaires de motos. Et donc, il y a là une contribution sur le plan économique.
Il y a une activité économique qui s'est créée.
De cette catégorie qu'on croit être venue juste pour pouvoir déranger les équilibres. Bien. Et aujourd'hui, sur le plan économique, vous avez également ces mêmes jeunes gens qui louent des maisons ici. Qui louent les maisons et qui financent. Les bailleurs. Mais ça, c'est du point de vue positif. Mais du point de vue négatif, parce qu'il y a cette concentration massive de population, alors que ce n'était pas prévu. Quand vous regardez sur les artères de la ville de Kinshasa, vous ne pouvez plus rouler normalement comme nous roulions en 86.
Oui, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Oui. Et donc, si vous ne faites pas attention avec votre voiture, si la voiture n'a pas de frein, ben, vous allez faire un carnage.
Vous allez faire des dégâts à tout moment.
Oui. Et c'est là maintenant qu'on doit interpeller l'État, le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est vrai que ses amis sont venus, mais c'est le gouvernement qui doit mettre de l'ordre. Et c'est ça la défaillance du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui doit mettre de l'ordre, qui gère la cité,
bien sûr. Professeur Dadi Salé, est-ce qu'on peut dire que le programme de développement des 145 territoires est la solution pour permettre aux milieux ruraux de se développer?
Le programme des 145 territoires est je dirais que c'est un début de solution, même si c'est un peu mal structuré, mais franchement, il faut dire que c'est un début de solution. Et comme je l'ai dit toujours, c'est largement insuffisant, mais mieux vaut un que zéro. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui fait qu'effectivement, que comme mon collègue vient de le dire, et tout le monde, nous disons la même chose, mais nous nous posons une sérieuse question, et pourtant la solution n'est pas compliquée. Pourquoi est-ce que ça ne change pas? J'ai dit un mot, c'était la structure politique et la structure sociétale. Et puis nous avons parlé des aspects sociologiques. À vrai dire, une cité se dirige. On ne peut pas gouverner sans prévoir. Et la prévision n'est pas compliquée. J'ai noté, parmi les solutions, nous avons la redistribution du revenu national. sinon s'il n'y a pas une bonne redistribution du revenu national, et ça c'est au niveau mondial, on aura toujours des exodes ruraux un peu pas voulus, hein, pas de bonnes, pas d'une bonne façon, mais de mauvaise façon. La deuxième contribution, ce sont les politiques de stabilisation de l'économie nationale. Parce que l'économie nationale ne peut pas se concentrer seulement en grande partie vers des zones urbaines. C'est tout comme nous savons exactement que la République démocratique du Congo a une capacité agricole, industrielle énorme. Donc, à vrai dire, c'est incompréhensif. Mais tenez, pour être un peu plus direct, parce que je ne mets pas des gants. Les gens posent des questions et il faut des solutions. Mais le vrai problème, c'est les pouvoirs législatifs. Parce que c'est le pouvoir législatif, en grande partie depuis des années, qui est le chef de la loi financière, qui est effectivement le chef du budget. Ça va, l'émanation. Le pouvoir exécutif, ça vient un peu après. Parce que si nous n'avons pas un bon pouvoir législatif, c'est-à-dire que les gens qui doivent voter de loi, la loi financière, on y met les moyens. Pour l'investissement, par exemple, dans nos zones rurales, on y met le moyen pour effectivement éviter un peu cette confusion comme pour l'instant, c'est une sorte de bombe à retardement au Katanga, et tout le monde le sait, mais ce n'est pas à constater maintenant. C'était déjà clair pour tout le monde. Il fallait, comme on dit, vous venez de prévoir, trouver des solutions socio-économiques et surtout politiques avant. Donc, en ce moment précis, j'insiste sur le fait que je pense effectivement qu'il y a un problème de direction. On ne peut plus continuer à constater les choses et pourtant nous avons un pouvoir qui doit légiférer pour effectivement éviter. Tenez par exemple quand on dit que les institutions de l'État sont budgétivores. Parce qu'on parle de la redistribution des revenus nationaux. Oui. Là, je suis un peu plus direct. Tant qu'il n'y a pas une bonne redistribution des revenus nationaux, c'est-à-dire que les institutions qui sont à Kinshasa et dans certaines villes consomment pratiquement tout le budget, mais quand vous arrivez dans nos territoires, je vous rappelle que vous avez des actes, des chefs de territoire, des administrateurs des territoires, parfois qui n'ont pas de souliers. S'il vous plaît. Qui n'ont pas de souliers. Alors, si un administrateur du territoire n'a pas de souliers, n'a pas de vélophones, il ne sait même pas administrer son territoire. Qu'est-ce que vous pensez de ces territoires-là? Donc, tout le monde aimerait aller à Kinshasa, aimerait aller à Goma, aimerait aller là où, effectivement, les choses marchent. Donc, je pense qu'une des grandes solutions pour éviter l'exode rural qui n'est pas nécessaire, parce qu'on a bien dit avec le professeur qui est expert en géographie, ça va,
en démographie.
Donc, c'est clair, on a des exodes ruraux aussi voulus, ce qui est bien. Mais pour l'instant, on constate que s'il n'y a pas de redistribution du revenu national, nous n'aurons que d'exodes ruraux qui déplieront, ça va, les zones rurales de leur main d'œuvre capable, et ces zones rurales-là ne vont pas se développer. Alors, si les 145 territoires ne se développent pas, par exemple, naturellement, le Congo ne va pas se développer. On a un développement des façades. On voit Kinshasa qui est beau, on y met des lampes, Goma qui est une belle ville, etc. Mais c'est pas ça la vraie République démocratique du Congo. Avec la politique du peuple d'abord, le vrai peuple congolais, c'est dans des zones rurales. Tout le monde est congolais, mais quand vous voyez la pauvreté dans nos zones rurales, alors là, à plus de 80%, non, là c'est pas 80%, là c'est entre 92 et 95% où les gens dans des zones rurales vivent au-delà du seuil de pauvreté. Donc, ils sont tellement pauvres que, comme on l'a dit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est à peine qu'on mange décemment, il y a la malnutrition. C'est là où tout se passe. Donc, la redistribution du revenu national devait être une préoccupation majeure. Mais comment est-ce qu'on vote nos députés? Parce que dès que les députés sont là, entre nous, excusez-moi, décider, parce qu'on veut des solutions. Ce sont les députés qui doivent trouver des solutions sur ces problèmes d'exode rural, en faisant des lois qu'il faut et en élaborant, en acceptant une loi financière qui va permettre l'investissement au niveau de la base. Moi, je suis un peu déçu, parce que le programme des 145 jours, c'est encore une fois un programme qui sort de la présidence.
Les 145 territoires.
N'est-ce pas? Ça sort, entre guillemets, du gouvernement exécutif, plutôt, du pouvoir exécutif. Bon, ça ne semble pas être vraiment durable, ça va. Normalement, on devait avoir des lois, on sait que, par exemple, 20%, 30% du budget national, quel que soit le budget, doit aller vers l'investissement dans nos zones, effectivement, rurales, pour arriver
bien
à booster.
Merci, professeur. D'accord. Merci, professeur Dadis, à l'expert en développement, intervenant depuis Goma. Excellente journée, professeur, et à la prochaine.
Salut. C'est moi qui vous remercie.
On va accueillir Belidé. Il y a trois des auditeurs, Belidé de Lubumbashi et Baudouin de Kasumbalesa. Belidé, bonjour.
Bonjour, Radio Service.
Quelle est votre question?
Je voulais aussi intervenir par rapport à l'exode rural. Je pense que cela va aussi nous aider dans ce pays pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, nous avons déjà la décentralisation qui est à la portée de tout le monde. Cela pourra aussi permettre à chaque province de se développer de sa manière. Alors, l'autre fois, j'avais aussi, si vous parcourez dans les archives et sur Facebook, j'avais même proposé aux députés nationaux ou provinciaux de pouvoir lire ou soit de nous avoir proposé les passeports provinciaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'un grand nombre de personnes se déplacent d'un millier à un autre. J'avais entendu l'autre fois les députés en train de dire que non, il y a l'article 30 qui donne l'accès à chaque population congolaise de se déplacer à n'importe quel moment. Je pense que nous devons aussi peut-être revoir d'autres textes qui contiennent vraiment plusieurs erreurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un se déplace par rapport, par exemple, les pourcentages qu'il a donné aux provinces qui se déplacent. Supposons, dans la province du Katanga, je pense que si tout le monde entend qu'il y a peut-être 56% des personnes, donc il y a quelques personnes qui ont bougé dans la province du Haut-Katanga, je pense qu'ils diront non. Par rapport à la province du Sud-Kivu, je pense que c'est compréhensible. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a mille raisons que la population n'ait pas un endroit fixe où ils vont résider. Entre autres, celle de la province du Kasaï. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème qui se pose sur les réseaux sociaux par rapport aux amis kasaïens et katangais. À ce qui concerne seulement la capacité de notre État, il doit tenir fort de ce que chaque population, selon sa province, doit vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où vous entendrez parler d'une guerre civile dans ces pays. Vraiment, que les chefs de l'État tiennent compte à tout ce qui se passe aujourd'hui. Si la population du Kasaï quitte la population du Kasaï vers le Katanga, alors qu'est-ce qui va vraiment développer la province du Kasaï? Et alors, au jour d'aujourd'hui, nous qui vivons actuellement à Lubumbashi, je vous donne un exemple typique. À côté de moi, ici, il y a un ami à qui je me suis fait ami chez lui, mais son grand frère lui avait appelé pour venir ici à Lubumbashi pour lui aider de vendre dans la pharmacie. Je vous dis, à un certain moment, lui aussi me disait que non, il y a mes deux autres amis qui sont venus, ils n'ont pas où ils vont résider, tout ça. Alors il m'appelle moi pour que je puisse leur aider. Mais ici, moi aussi, je n'ai rien. Je lui dis que bon, ça, ce n'est pas bien d'après tout autre.
Merci.
Mais aujourd'hui, d'accord, je me suis retrouvé que ces gens-là dorment dans la pharmacie. Alors cette situation n'est pas normale. Dis-moi, se déplacer en cas de service ou soit en cas d'études par motif quelconque, là ça va, mais se déplacer comme ça, vraiment que
sans objectif précis. Merci Baudouin. Merci, vous êtes à Kasumbalesa, bonjour. Baudouin de Kasumbalesa, bonjour.
Bonjour monsieur Jody.
Quelle est votre question, Baudouin?
Bon, j'ai juste une petite préoccupation par rapport à ce sujet du débat. Je pense que ce sujet est très pertinent et très important. L'exode rural, pour moi, ça revient à la responsabilité de l'État. D'autant plus que nous avons 80 millions de terres arables. Je pense que tous ces 80 millions d'hectares arables sont dans les zones rurales. Je peux peut-être exempter les zones où il y a des troubles, entre autres le nord et le sud Kivu, l'est en général. Bon, là, l'État doit prendre ses responsabilités pour sécuriser cette population là-bas, pour éviter, afin d'éviter cet exode rural. Pour ce qui concerne les zones rurales où il n'y a pas de conflit, où ces 80 millions de terres arables sont en souffrance inutilement, je pense que l'État, dans cette politique ici des 145 territoires, doit tenir compte de la création des entreprises agro-industrielles pour favoriser cette population-là qui est en train de travailler. Moi, je pense qu'avec la réhabilitation des routes, en tout cas, je m'excuse de dire cela, l'État, en tout cas, n'a pas pu faire quelque chose. Alors, comme l'État n'a pas pu faire quelque chose par rapport à cela, cette fois-ci, il peut aider cette pauvre population-là qui vit localement là-bas, les encourager en créant des entreprises agro-industrielles. Donc, les entreprises qui viendront là-bas pour consommer localement les produits qui sont
travaillé par la population qui est là. Je pense que ça, ça serait une façon de faire les choses. Mais quand cela ne tienne, l'État aussi doit revenir sur les infrastructures routières. Par exemple, pour ce qui concerne les territoires, dans les chefs lieux de chaque territoire, il doit y avoir au moins 2 ou 3 entreprises agro-industrielles. Et dans les territoires là-bas, par rapport aux autres entités, secteurs, chefferies et consorts, ne fût-ce que réhabiliter certaines routes pour faciliter les mouvements là des produits.
Donc, d'accord. Depuis l'échange jusqu'au niveau des centres de consommation. Merci, Baudouin.
Oui, juste au niveau local, territorial seulement, là, ça peut aller. Au lieu de les lier un territoire à un autre, non. Même les secteurs et les chefferies là-bas, les centres de consommation locale d'un lieu à un autre. Je pense que ça va nous épargner à ce que nous sommes en train peut-être quelque part de déplorer comme conséquence des zones rurales. Merci, monsieur. Merci en tout cas pour ce débat. Bonjour.
Merci Baudouin. Serge, vous êtes à Kolwezi. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Jordi. Ma question est celle-ci. Je suis profondément touché par le sujet qui est pertinent. Je voulais un peu savoir les statistiques qu'on nous a présentées récemment là. Je pense que pour dans la base, moi je suis à Kolwezi, le chantier n'a pas été représentatif. Parce que ici, nous savons avant l'avènement des coupages province, nous étions ici à plus ou moins 600 000 habitants. Et maintenant, nous sommes à plus ou moins 2 millions.
2 millions d'habitants à Kolwezi.
Oui, plus ou moins 2 millions. C'est-à-dire de 600 à 2 millions. Et puis, à l'avènement province, nous étions, toute la province de là-bas, c'était 2 500 000. Parce que là, j'ai sorti un ouvrage qui dit Arc du Forum sur le développement de la province de Malaba, là où j'ai mis toutes les statistiques et l'évolution. Et il y a aussi un ouvrage que j'ai sorti, Kolwezi au-delà des mines. Ce qui attire les gens ici au Malaba, c'est l'exploitation minière artisanale. Il y a des candidats qui ont commencé par les unités et aujourd'hui, ils ont même des établissements hôteliers. C'est-à-dire, ici, c'est facile que les gens puissent faire de la fortune. C'est facile à cause de l'exploitation minière artisanale. Maintenant, dire par rapport aux statistiques du PROF, que 60%, nous sommes en troisième position de l'exode rural, en tout cas, ça, nous mettons...
Vous mettez cela en doute. D'accord, merci beaucoup. Professeur, je vais donner rapidement la parole au professeur Barthélémy. Professeur, à vous la parole.
Bien, merci, Jody, mais je vais commencer avec la préoccupation de Serge. C'est vrai, Serge, vous avez raison, parce qu'il s'agit d'une enquête. Ce sont pas les données d'un recensement. Ce sont des estimations, mais qui donnent une certaine information. Et raison pour laquelle j'ai tenu à les présenter, parce que c'est une enquête nationale. Il est aussi vrai que la population du Lualaba doit exploser avec le boom minier qui se passe là-bas, c'est tout à fait normal. En ce moment ici, il est possible que vous soyez à plus de 2 millions. Et c'est parce que tous les jours, les gens accourent de partout pour venir là-bas. On apprend, les politiciens sont là-bas. En tout cas, tout le monde
c'est
vient
C'est tout
là-bas.
Le monde qui vient.
Pour le moment, c'est le Lualaba. C'est même pas le Haut-Katanga. D'abord, le Lualaba, le Haut-Katanga. Et c'est tout à fait normal. Eh bien... Vous allez également connaître les problèmes d'insécurité, les problèmes de criminalité, parce que tout le monde qui vient pour pouvoir travailler dans les mines n'aura pas la force de pouvoir faire ce travail-là. Et le raccourci, c'est le vol, c'est le viol, et ça va arriver. Et c'est là également que nous interpellons le gouvernement congolais. Il faudrait pas que nous tous nous puissions abandonner ce que nous faisons pour venir au Lualaba. Vous avez bien dit que quelqu'un arrive, fait les cambistes, et puis le lendemain, il est propriétaire d'un complexe hôtelier. Moi, je suis professeur d'université, et bientôt, nous allons voir encore certains cadres, fuir ce que nous faisons comme métier pour pouvoir venir au Lualaba et faire le cambisme. Eh bien... C'est là que nous interpellons le gouvernement.
Professeur, on peut dire que le programme de développement des 145 territoires, c'est la solution.
Bon, la solution, je ne sais pas, mais c'est déjà quelque chose. Ça va être la solution à la fin de la mise en œuvre du programme. Parce que ça peut être également une catastrophe. Ce qui fait que déjà dire aujourd'hui que ça va être une solution, il faut vraiment avoir beaucoup de réserves. Ça peut être une catastrophe. Mmh. Une catastrophe parce que nous en avons vu déjà.
Mais on dit qu'un développement doit tenir compte des données démographiques.
Justement, j'avais posé cette question-là. Je ne veux pas dire à qui j'avais posé la question.
Oui.
J'étais intéressé à savoir quelles sont les données qui avaient été exploitées pour pouvoir faire ce programme-là. Et je n'ai pas eu de bonnes réponses. Mais en tout cas, au moins, on avait envoyé des gens sur terrain, dans les villages, rencontrer les chefs coutumiers pour pouvoir avoir les besoins de ces villages. Eh bien, j'ai eu le temps de regarder. C'est vrai que les problèmes sont presque les mêmes. On parlait des infrastructures routières, des infrastructures scolaires.
Mais pas d'électricité, tout ça.
Oui. Eh bien, même quand on parle des investisseurs qui doivent venir au pays, comment voulez-vous qu'un investisseur vienne, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et vous lui demandez d'aller s'installer en Boujmaï? Ça, c'est une chose. De deux, les forces vives, on va dire les têtes et les bras des jeunes, ont déjà quitté, par exemple, le Kassai. Ceux qui restent là-bas se cherchent encore, cherchent des moyens pour aussi
pour
partir.
Aussi partir.
Partir. Oui. Et donc, maintenant, en termes de gouvernance, je pense que le gouvernement doit tout faire pour pouvoir
ramener
les gens là-bas. Ce que disait tout à l'heure notre ami de Belide de Lubumbashi,
oui.
Où il y a des jeunes gens qui passent nuit dans des pharmacies, lorsque on va développer tous les coins, pas seulement au Kassai, de la République, qui sont répulsifs en ce moment, si on arrivait à mettre en place des conditions d'attraction, tous ceux qui se trouvent au Katanga, qui se trouvent à Kinshasa,
ils vont
vite rentrer. Ils vont rentrer parce que, écoutez, les taximens moto versent 15 ou 20 000
par jour au
propriétaire,
de la moto.
Et lui, il a à peu près 5 000 ou 10 000. Parce que c'est ce qui va gagner.
Mm.
Alors, si jamais on payait $200 à un jeune homme qui va faire
le
cantonnier manuel,
oui.
Ou qui va travailler dans un champ quelque part, au Kassai ou ailleurs, on verra encore que les taximens moto, qui sont tamponnés régulièrement, vont abandonner ce
travail. Et ils vont retourner là-bas.
Ils vont retourner là où ils estiment qu'ils peuvent se retrouver. Eh bien, c'est tous les vœux, c'est que le gouvernement prenne ses dispositions. Et donc, il faut une politique de population, une vraie politique de population. Parce qu'il y a eu une politique de population implicite qui a chassé les Kassaïens de chez eux. C'était une politique menée pendant 20-30 ans. C'est cette politique-là qui a fait qu'on chasse les Kassaïens et ils partent d'eux-mêmes. Et ils fuient cette misère-là parce qu'il n'y a plus d'économie. Rappelez-vous qu'il y a eu une époque, après 1993, lorsque les Kassaïens, il y a eu épuration ethnique, les Kassaïens se sont retrouvés, des cadres se sont retrouvés dans la zone de Mwenedi-Tumbujima, Ngandajika et consorts. Ils ont fait des champs, certains étaient à la Miba, et la province était prolifère. Et il y avait 2, 3, 4, 5 cargos qui faisaient des tours sur l'aéroport de Mbujima par jour.
Les champs de maïs et
oui,
autres produits.
Oui, et il n'y avait vraiment pas de problème. Et puis, viendra cette politique implicite de punir les Kassaïens. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Ils ont fui chez eux, ils sont ici. Eh bien, il faut également noter que les minerais sont des ressources non renouvelables.
Aujourd'hui, la Miba est presque...
Il y a la Miba qui était prospère et les diamantaires étaient très, très, très contents à l'époque. Ils sont aujourd'hui parmi les motards. Quand vous allez au Katanga, on est en train de creuser. On va laisser des étangs. On va creuser les terres, on chasse les villageois. Là où il y a des carrés miniers. Eh bien, lorsque vous vous projetez dans l'avenir, je ne sais pas si on a déjà réfléchi à ça au Katanga. D'ici 20-30 ans, qu'est-ce qui restera encore de ces mines, de ces minerais, de ces populations-là? Revenez en Belgique. Vous avez les Wallons et les Flamands. Il y a eu une période où les Wallons, il y avait le charbon, c'est le charbon qui était l'énergie utilisable en Belgique.
Oui.
Et c'est... l'économie de la Wallonie était basée sur ça. Et puis tout d'un coup, il y a plus de charbon en Wallonie. Et dans l'entretemps, en Flandre, chez les Flamands, ils ont les fleuves et ils ont continué à exploiter. Et les minerais qui venaient du Congo étaient à Hoboken, le cuivre. C'était traité à Hoboken. Et il y a eu prospérité économique en Flandre, contrairement à ce qui se passait en Wallonie. Eh bien, Je pense que notre gouvernement doit réfléchir sur le développement durable et l'exploitation de ces minéraux. Mmh. Et bien, c'est par là que je salue ce programme de 145 territoires. Oui. Mais j'invite également le gouvernement, le Premier ministre, les ministres et le Président de la République pour que ça soit très, très bien géré. Oui. Sinon, ça risque d'être encore une catastrophe.
Professeur Barthélémy Vanza, merci. Je rappelle que vous êtes démographe. Merci d'avoir répondu à notre invitation.